Bonjour à tous et bienvenue sur Extasia.fr pour notre podcast 37 entièrement consacré à Sonocion et son cinéma. Avec ses 5 films tournés en 2015 qui s'ajoutent à une filmographie déjà pléthorique, Sonocion méritait bien qu'on lui consacre une émission entière. Alors, on va évoquer sa carrière de manière chronologique et thématique, de ses débuts expérimentaux dans les années 80 jusqu'à ses projets et son retour annoncé pour roman porno. Mais en introduction, j'aimerais faire un premier tour de table, on est très nombreux, et vous demander à chacun ce que vous pensez du cinéma de Sonocion, ce qu'il représente pour vous, à commencer par une voix que l'on entend normalement du haut lointain par Skype. Bonjour Yannick.
Bonjour.
C'est cool de t'avoir parmi nous, en vrai, en live, en chair et en os.
Oui, ça fait plaisir.
Alors, Sonocion pour toi, qu'est-ce qu'il peut représenter, comment tu l'as découvert, et que penses-tu de son cinéma en 2-3 phrases, histoire de faire un tour de table complet.
Oh bah, Sonocion, je l'avais découvert, moi, c'était avec Mad Movie qui en parlait beaucoup, et avec les Suicide Club.
Et au début des années 2000.
Oui.
Coup, c'est un peu plus tard qu'on a découvert Suicide Club.
Oui, c'est ça. Donc oui, le cinéma de Sonocion a mis du temps quand même à arriver chez nous. Et j'ai tout de suite été impressionné par la qualité de son cinéma, par l'inventivité, la folie. Love Exposure et Goldfish restent des moments de cinéma absolument fabuleux pour moi.
Voilà. Bon, on va développer ça. Bonjour Samir.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez toi pour ce podcast exceptionnel de l'été. Donc,
podcast balcon.
Podcast balcon, on est à l'extérieur comme on peut l'entendre.
Les odeurs de gazouille, c'est super sympa.
Alors, Sonocion, pour toi.
Et moi, je ne connaissais pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Donc, je crois que c'est la première fois où je me lance comme ça dans la découverte d'un cinéaste. Oui, c'est très atypique.
Alors, c'est comment
c'est couillu. C'est vraiment couillu et bon...
Couillu, je note.
Ouais,
c'est punk.
Couillu, punk, ouais. Non, c'est... Il y a à boire et à manger dans cette filmographie. Mais bon, après, on y reviendra plus tard. Mais moi, elle m'a intéressé sur 2-3 points. Vraiment, c'est un cinéaste... J'aime beaucoup ce qu'il fait dorénavant parce qu'il n'a peur de rien et quitte à s'aborder lui-même dans ses propres films au niveau de sa narration, pas mal de choses. Et voilà. Et puis surtout, je suis très content d'avoir vu ces films et puis surtout d'en parler avec vous qui êtes très très spécialiste de ça et de ce son. Et j'ai vraiment envie de vous poser quelques questions parce que c'est très très atypique, c'est vrai.
C'est toi qui vas faire le médiateur donc et poser aussi des questions pour le développement. Justement, à propos de connaisseurs, je me tourne vers Elias, surtout parce que tu as pu rencontrer, il y a quelques semaines, tu étais au Japon et tu as pu rencontrer Sonocion. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette rencontre en introduction?
Alors, donc, la rencontre avec Sonocion s'est faite, en fait, il y avait une exposition au musée à Tokyo, le Watarium, basée sur Exploring Star. Donc il montrait donc des storyboards ou alors il recréait des scènes du film dans le musée.
Donc Exploring Star, c'est son film qui est sorti il y a quelques semaines au Japon.
En mai. Et qui du coup sortira peut-être en France en festival, on ne sait pas vraiment ça vraiment encore. Donc voilà, donc on s'est rencontrés pour ça et on voulait poser quelques questions sur ces films d'avant, sur tes films maintenant et sur ces projets qui vont arriver, sur pourquoi il fait ces films, quel type de cinéma veut-il faire plus tard et pourquoi a-t-il changé un petit peu de style, on en parlera plus tard récemment. Et c'est très bien placé, c'est vraiment un réel, je pense, c'est mon réel préféré, mon réel asiatique préféré depuis que j'ai découvert il y a 3-4 ans. Et c'est vraiment été un plaisir de le rencontrer, en plus il est très très sympa. Et donc j'ai hâte de pouvoir parler plus de tout à l'heure de l'interview en disant ce qu'il m'a dit, qu'on parlera des films en eux-mêmes.
Bonjour Marc, je crois que tu as aussi rencontré Sonocion il y a quelques années, est-ce qu'il avait déjà son chapeau?
Alors, il n'avait pas son chapeau à l'époque, c'était en 2010. Il y avait deux de ses films qui passaient dans un festival à Saint-Denis, Suicide Club et Love Exposure, qui était encore inédit en France. Et c'était assez épique, l'interview a dû durer plus d'une heure, et ce qui s'est terminé en énorme beuverie en fait. Et à la fin de l'interview, Sonocion devait présenter un de ses films qu'il projetait, mais il tenait à peine debout en sortant de l'interview, donc je sais pas comment s'est passée vraiment la présentation du film. Après, je l'ai laissé.
Toi aussi, d'ailleurs, t'es interdit de séjour là-bas. Si
voilà. Mais c'était assez excellent. On avait pu parler pas mal son cinéma passé, qui était assez méconnu à l'époque. Il y avait très peu d'articles sur, sur son cinéma. Très peu de ses films étaient encore disponibles, notamment les premiers films de la période années 80-90. Donc c'était l'occasion de balayer un petit peu le terrain. Et on avait également parlé de son projet qui a été finalement avorté, qui était l'adaptation de Lords of Chaos sur le black metal norvégien. Et une semaine après l'interview, il allait en Norvège pour faire les repérages pour son film. Mais le film finalement a été annulé, donc, ce qui était dommage parce que c'était sa première incursion en langue anglaise avec un casting international. Il devait y avoir Jack Rathbone qui devait jouer dans le film. Et finalement, ça avait été annulé au dernier moment. Mais c'était vraiment, effectivement, comme Elias l'a dit, vraiment très sympa, très abordable. Et en plus, ça, ça permettait d'aborder pas mal de points, notamment l'influence de la culture française dans ses films, puisque il connaît pas mal d'écrivains français, de réalisateurs français, notamment dans ses films, il y a des citations de François Villon, de Joris Carl Huysmans, etc. Donc c'est quelque chose qui est très prégnant dans ses films.
Très bien. Et toi, Kefren, est-ce que tu as déjà rencontré Sonotion ?
Non, moi, personne. Je n'ai jamais rencontré Sonotion. Ah si, je l'ai rencontré à l'étrange festival, mais seulement pour les serrer à la main et les en mangeant.
Je crois qu'on l'a tous fait.
C'est des souvenirs.
Exactement. Donc,
Voilà.
Mais sinon, moi, j'ai découvert Sonotion il y a 5-6 ans, je pense, lors de ma recherche des extrêmes en Asie. Et beaucoup de blogueurs américains et français parlaient de Suicide Club et Strand Circus, que j'ai vu et que j'ai adoré, et donc je me suis dit pourquoi pas continuer sur ma lancée et me faire toute la filmographie du monsieur.
Voilà. Bonjour Elvire.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Alors je crois que tu as aussi croisé ce notion à l'étrange.
Oui, voilà, pour une photo et pour lui serrer la main. Pareil.
Ah, toi aussi?
Oui, oui. Il est très abordable. Non, bah j'ai découvert ce notion, enfin ça fait quelques films de ce notion à l'étrange festival en fait, parce que je connaissais absolument pas avant. C'était au moment, ça devait être Cold Fish et Guilty Romance. Et bah du coup après j'ai rattrapé en fait, je continue de rattraper. Parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de films en ligne.
Oui.
Ouais. Donc j'ai même rattrapé il y a encore une semaine en regardant un ou deux de ces films que j'avais pas encore eu le temps de regarder. Donc je suis tout à fait d'accord avec Samir en fait, en disant que c'est un cinéma couillu et que il est, cette notion est lui-même capable de s'aborder en fait. Et, par une extrême maladresse par moment, mais qui est toujours touchante et ça passe en fait. Même si parfois j'ai des réserves sur certains films, c'est toujours des films que j'ai pris, enfin, presque toujours que j'ai pris plaisir à regarder.
Je crois que comme Jérémy n'est pas là, je vais compléter avec oui. Une phrase que Sonotion a dit à Jérémy en interview, c'est que je crois qu'il voulait rester toujours amateur en fait. Qui voulait pas justement, qui ne se considérait pas comme un cinéaste professionnel et qui avait toujours un amateurisme qu'il voulait garder dans ses films. C'était à l'époque où il sortait Land of Hope, donc Jérémy lui avait demandé justement si.
Qui est peut-être son film le plus.
Oui, le plus calme, mais justement un peu plus accessible. Et non, en fait, il disait oui, non, c'est pas du tout le cinéma dans lequel il veut aller, et il l'a prouvé par la suite, ouais, les films. Où il est reparti dans des expériences où il peut effectivement s'aborder, que ce soit pour des grands studios ou pour, voilà, pour des productions plus confidentielles. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va.
Merci d'être parmi nous. Donc tu transfuges de Cinématrack pour Istasia le temps d'un podcast.
Voilà.
Alors, Sonotion.
Sonotion, en fait, moi, c'est, enfin, je suis un peu comme Samir et Elvire. Je connais beaucoup moins que vous ce cinéaste. J'ai dû voir 1% de sa filmographie.
Elle vient,
mais en fait,
bien,
j'ai quasiment
tout vu. Bon, bah. Merci. Non, j'ai juste vu 1%, quoi. Genre 9-10 films, pas plus. Et.
C'est pas un peu plus qu'un.
Ah oui,
il a pas fait
non
plus 150 films. Hein.
C'est clair. Bon,
allez, tu recommences.
Mais sinon, bah, j'ai découvert avec Suicide Club, hein, effectivement. Après, j'ai complètement zappé. Je ne me souviens même plus quel réalisateur avait fait Suicide Club, en fait. Et je l'ai repris avec Guilty of Romance, qui m'a moyennement plu. Mais après, il y a eu Land of Hope. Et il y a eu Land of Hope, moi, effectivement, j'aime beaucoup ce film. Et donc, j'ai rattrapé le maximum de films que je pouvais, souvent illégalement, malheureusement. Mais...
Oui. On va parler de la distribution des films français de Sonotion.
J'ai vu que ces films sortis chez nous.
Oui, comment ?
J'ai vu que ces films sortis chez nous.
Yannick est très sage.
J'ai cru comprendre.
Bonjour,
Martin. Bonjour. Alors, Sonotion, pour toi, comment l'as-tu découvert et que représente ce cinéma pour toi ?
Moi, j'ai découvert il y a très très longtemps, mais alors pas forcément avec un film, mais plutôt avec un de ces happenings qui a été filmé par Jean-Jacques Benex dans le documentaire Otaku. Donc voilà, je ne savais pas du tout qui c'était, juste que c'était un japonais un peu fou qui courait dans la rue à Tokyo avec son mégaphone et qui criait « les japonais, les petites bites ». Voilà. Donc voilà... Mais bon, Benex, c'est un film un peu hors contexte.
C'est le synopsis aussi de Kurt Rag, du coup.
Oui, voilà. Oui, c'est exactement, ça revient. Mais de toute façon, en plus, l'happening, il apparaît aussi dans Bad Film, le film aussi. Donc voilà, mais c'est que bien plus tard, j'ai compris que c'était ce type-là. Et puis après, quand Sonotion, quand Suicide Club est apparu en DVD, mais en import, un ami me l'a prêté, il m'a dit mais regarde ça, tu vas voir, c'est une claque. Et en effet, dès la scène d'ouverture, j'ai compris qu'il y avait quand même l'air d'un grand cinéaste fou, un grand cinéaste. Et donc voilà, après c'était très difficile de voir ce film, c'est un peu parsemé. J'avais raté sa rétrospective à l'étranger festival parce que je bossais, mais heureusement. Donc voilà, mais bon, ensuite j'ai pu revenir dessus de manière beaucoup plus assidue, on va dire. Donc voilà, et dès que j'ai l'occasion de rattraper mon retard sur le grand écran, parce que c'est toujours la meilleure façon de voir ou revoir ce film, bah voilà, les derniers, peut-être les dernières séances vraiment folles que j'ai faites, ça a toujours été avec les Sonotions. À l'étrange festival, tous ceux qui étaient à la séance pour Why Don't We Play in Hell, ils se souviennent, hein, c'était un truc, mais de malade.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Donc tu étais aussi à la séance de Why Don't We Play in Hell, hein.
Comme beaucoup, mais c'était vraiment bien. Alors moi j'avais vu Suicide Club, pas au cinéma, parce que j'étais peut-être un peu petit, je crois, il est sorti en 2001.
Ouais, mais il n'est pas sorti en salle. Hein.
Il n'est pas sorti en salle.
Non, il est sorti en super coffret. Mais...
distribué par Kazé en DVD quand ils éditaient des films, et bien après 2000, il me semble.
C'était un coffret avec le Noriko's Dinner Table, oui, aussi. Ouais.
Et du coup, j'avais vu Suicide Club un peu plus tard, quand je recherchais un peu comme. Pas les extrêmes forcément, mais quand je regardais, enfin, je cherchais des cinéastes asiatiques qui me plaisent, tout comme ça. Et j'avais vraiment adoré à l'époque, mais j'étais pas revenu en fait. Enfin, j'avais un peu zappé. À la base, je voyais pas le film parce que c'était Sonotion, je le voyais parce que c'était un film japonais, et voilà. Et j'y suis revenu justement à la rétrospective de l'étrange festival, quand il y a eu Guilty of Romance et Cold Fish. Et c'est là où vraiment, c'est pareil, j'ai pris une claque et j'ai décidé de continuer à suivre avec attention ce cinéaste. Et puis j'ai vu ces films qui sont passés à l'étrange tous les ans. Après, c'était vraiment une des superbes découvertes du 21e siècle.
Alors, on va revenir au 21e siècle, justement, mais avant, on va replonger au 20e siècle avec le début de la filmographie de Sonotion. On a tous parlé de Suicide Club, qui date de 2001, mais il a réalisé une quinzaine de films avant, depuis 1985. Watashiwa Sonotion Death, donc son premier film, un petit court-métrage expérimental qui veut dire Je suis Sonotion. Et donc je vous pose la question, qui est Sonotion en 85? Képhren?
Sonotion en 85, c'est un espèce de poète, de punk fou, et justement dans son film Watashiwa Sonotion Death, c'est Sonotion qui se filme, lui et ses amis, en train de faire des happenings de soir dans la rue. Il se coupe les cheveux en direct et des choses comme ça. Il met du sang sur des statues. Il écrit ses poèmes sur les murs. Et d'ailleurs, il a dit que c'est comme ça d'ailleurs qu'il est venu au cinéma au début. C'est qu'il voulait écrire la poésie, mais personne lisait la poésie au Japon. Et ce qui le gênait aussi, c'était la manière dont on devait retranscrire la poésie sur le papier, qui ne représentait pas pour lui comment on devait lire la poésie, car ses émotions à travers les caractères n'étaient pas représentées. Et donc il l'écrivait sur les murs après à Tokyo. Et il s'est rendu compte que ce serait mieux que plus de gens le voient, donc il commençait à filmer ce qu'il écrivait sur les murs. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire ses courts-métrages durant quand il avait 20, enfin début de sa vingtaine.
Et comment est-ce qu'il est passé de ces courts-métrages un peu expérimentaux à un cinéaste plutôt reconnu et installé déjà au début des années 2000, Marc ?
Ça s'est fait de façon un petit peu étalée, parce que on peut délimiter deux périodes dans sa carrière, c'est avant et après Suicide Club, puisque avant il a fait beaucoup de courts-métrages expérimentaux, donc le I Am Solution qui date de 85.
Love Song aussi, le premier.
Love Song qui était son premier, donc c'était des films tournés en 8mm à l'arrache, films post-étudiants, etc. Et ensuite, il a fait également plusieurs longs métrages au début des années 90, notamment The Room, qui était pas mal, Bicycle Sight en 90, qui étaient des longs métrages un peu plus aboutis, un petit peu plus professionnels, mais ça restait encore dans le domaine de l'amateurisme. Et lui-même, ce notion, a arrêté brièvement sa carrière de cinéaste au milieu des années 90. Donc, Martin, tu parlais de Tokyo Ga 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 avec le documentaire de Benex. Effectivement, il a arrêté de faire des films pour ensuite faire des performances dans la rue. Et,
Tokyo Ga Ga Ga,
c'était le mouvement qu'il avait fondé justement pour faire des happenings dans la rue, et donc qui avait été filmé par Jean-Jacques Benex au milieu des années 90. Et au milieu des années 90, après justement cette période Tokyo Ga Ga Ga, Sonotion est parti pendant un an en Californie, à UCLA, pour étudier le cinéma. Et du coup, se professionnaliser, connaître un petit peu plus le monde du cinéma. Et après cette année américaine, il est retourné au Japon. Et c'est là qu'il a commencé à mûrir plusieurs projets, notamment Suicide Club, qui est, je pense, son premier film vraiment professionnel qui a marqué sa carrière et surtout qui l'a fait connaître a posteriori par le public international. Donc dans les années 90, il a fait quand même beaucoup de projets, des courts-métrages, des longs-métrages, mais qui sont quand même assez difficiles d'accès et toujours un petit peu expérimental. Il y a notamment un documentaire qui s'appelle Utsushimi, qui parle notamment de la photographie de Araki, qui est assez intéressant. Et oui, c'est... Voilà, les années 90 ont été une période un petit peu de formation pour lui, une sorte d'errance à travers le cinéma pour vraiment se trouver lui-même, trouver son style et commencer sa carrière internationale dès 2001. Et après, il a pas arrêté d'enchaîner les films.
Alors pour les curieux, je crois qu'il y a un coffret en Angleterre qui réunit les premiers films de Sonotion.
Before Suicide Club.
Before Suicide Club. En France, ça reste inédit, mais on en trouve beaucoup sur Internet.
Dans l'Angleterre, mais les séries japonais, il semble que ça 8 DVD, ça, et les japonais, c'est extrêmement cher comme coffret. Hein. Plusieurs centaines d'euros. Hein,
donc
vous pouvez les trouver sur Internet également.
Oui.
Effectivement, c'est un coffret assez précieux. Quand je l'avais rencontré en 2010, il annonçait déjà que le coffret DVD allait sortir. Finalement, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Ouais. Mais c'est vraiment une occasion de découvrir tout ce qu'il a fait avant avec son œuvre expérimentale et tous les courts-métrages qu'il a fait, parce qu'il y a quand même des choses de qualité.
Est-ce qu'il y a des films marquants de cette période à voir en priorité, et qu'est-ce qui annonce, des films qui annoncent l'œuvre à venir, vraiment, d'après vous?
Moi, je dirais Bicycle Side, parce que dans Bicycle Side, il y a les figures adolescentes qu'on verra après dans son cinéma et qui parlent comme ça, qui sont toujours entre l'enfance et l'âge adulte et qui essayent de poursuivre leurs rêves, etc. Et ce sera après la marque de Sonotion dans à peu près tous ses films personnels comme ça, où c'est des jeunes adultes qui sont confrontés à la fin de l'innocence en quelque sorte et qui doivent poursuivre leur rêve coûte que coûte, quitte à tuer tout le monde comme à la fin de Why Don't You Play In Hell.
C'est déjà en plus dans cette première période, il a déjà commencé à attirer l'œil de certains programmateurs de festivals, notamment Sundance, parce que certains de ses courts-métrages expérimentaux et tout ça ont été présentés là-bas. Quoi. Sundance, c'était des films très bruts en l'état. Certains ont compris qu'il y avait un talent certain chez ce bonhomme.
Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette première partie un peu introductive sur le cinéma de Sonotion?
On peut peut-être évoquer Die Bad, Bad Film.
Bad Film, ouais.
Bon, qui est sorti beaucoup plus tard, qui a été notamment à l'étranger, c'est-à-dire, ils lui ont présenté.
À Deauville aussi.
Oui, voilà.
En 2012 ou 2013, hein, je crois, parce qu'il y avait un problème pour finir le montage, hein, la version finalisée, c'est fait beaucoup plus tard.
Oui, voilà, encore, bon, c'est une espèce de patchwork, hein, plus qu'autre chose, hein, et ça raconte justement toute sa période avec son groupe. Un peu de théâtre expérimental, d'happening et tout ça. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de film narratif, c'est très bordélique. C'est tourné à plusieurs caméras et pas toujours les mêmes. Donc, des fois,
c'est long en plus.
Oui, ça dure 3 heures.
J'ai personnellement beaucoup de mal à aller jusqu'au bout.
Ouais, voilà, moi je suis pas resté jusqu'au bout. C'est une curiosité plus qu'autre chose. Voilà, ça témoigne plus d'une période de sa vie, de son œuvre artistique. De sa formation que vraiment de. Voilà, c'est un complément indispensable pour mieux comprendre son œuvre et le personnage. Mais voilà.
Très bien, bah on va en arriver à la vraie première partie de ce programme sur Sonotion qui commence donc avec Suicide Club. Donc 2001, c'est une reconnaissance internationale comme on l'a dit, on va un peu développer sur ce que représente ce film pour Sonotion et qui peut aller jusqu'à Exté donc en 2007, qui sort d'ailleurs en DVD, en Blu-ray à la rentrée en octobre. On aura l'occasion aussi d'y revenir. Alors en quoi ce Suicide Club est une vraie rupture dans le cinéma de Sonotion, Elias?
En fait, moi je pense que Suicide Club, c'est le premier essai de Sonotion de faire un cinéma qui, plus qu'être un cinéma qui est fait pour lui, expérimental, poétique, pour ses idées, etc., faire un cinéma qui peut être vu par des spectateurs lambda, qui peut être apprécié, tout en gardant bien sûr sa patte, tout en voulant garder ses idées. Mais pour moi, Suicide Club, c'est aussi un des films les plus accessibles de Sonotion. Et moi je trouve que ça l'est. Après, c'est le premier que j'ai vu hors festival, donc c'était pour ça aussi que je pensais déjà un peu son style. J'avais juste vu Wayne sur Playinel. Après, du coup, j'ai vu ça, j'ai fait tiens, c'est vachement bien. Du coup, je me suis tout enchaîné en 2 semaines jusqu'à Cold Fish. Et pour moi, c'est en fait un de ses premiers films où il tente de faire un cinéma qui peut être. Qui se rapproche à plusieurs moments très proche de la J-horror plutôt classique. C'est pas un défaut, mais tout en gardant son style, mais c'est pour moi, voilà, c'est vraiment son premier essai de faire un film pas commercial, mais qui peut être vu et qui peut être apprécié.
Parce que le film en dehors de ça, existe quand même par bloc narratif,
oui, bien sûr,
et après reste quand même extrêmement décousu dans sa construction. Martin, peut-être.
Disons que pour moi, c'est la scène d'ouverture.
C'est une scène qui a marqué.
Ah oui, mais voilà, c'est même pas marqué, ça a traumatisé toute une génération de cinéphiles. Une violence graphique et puis complètement folle.
Torrent de sang qui se déverse sur le
54
lycéens. Qui est dans cette scène d'ouverture, peut-être.
Donc voilà, c'est le cas d'une gare, je pense que c'était sûrement la gare Shinjuku. Il y a tout un groupe de lycéennes habillées en sailor, toutes mignonnes et tout.
Ils se tiennent
par la main, elles attendent le train, et quand le train arrive, elles se jettent sous les rails, et là, ça part sur un espèce de geyser de sang.
C'est surtout la discordance entre la joie,
ils
se comportent comme des écolières normales,
oui, exactement,
qui sautent, qui rigolent, et puis on se loupe.
Voilà.
Oui, mais l'exubérance du sang qui chic, je me rappelle de ces flots de sang qui s'écoulent sur le quai du.
Oui, c'est ça aussi,
alors il y a peut-être quelque chose d'important aussi, c'est que Sonotion travaille avec
Nishimura
sur les effets spéciaux de cette scène d'ouverture. Nishimura qui ensuite va réaliser des films et notamment va être responsable des Sushi Typhoon auxquels va participer Sonotion avec Cold Fish. Mais on sent vraiment dans cette scène d'ouverture aussi la patte des effets spéciaux et du maquilleur qu'est Nishimura.
D'ailleurs, ça se calme après. Le film se calme, il y a cette séquence absolument traumatisante dans les premières minutes, et après le film se pose.
Il y en a une autre aussi où c'est des lycéens sur un toit qui discutent ça, et tout d'un coup ils disent pourquoi on se suicide pas, et ils se poussent.
Oui, il y a d'autres moments, mais ce que je veux dire, c'est que la narration se pose plus calmement, il y a beaucoup il y a une ambiance très très malsaine aussi.
Mais par contre, là, la scène choc, elle apparaît dès le départ, et c'est quand même. on a rarement vu au cinéma une scène aussi, enfin une introduction aussi forte. Quoi.
Non, clairement.
Et, voilà, il a réessayé plus ou moins avec le tag, qui est un peu plus gaguesque, on va dire. Et là, vraiment, c'était pris dedans. La première fois que j'ai vu ça, je l'ai repassé d'autres filles. Quoi. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que ce machin, quoi.
Et je trouve pas tag gaguesque, en fait.
Non, mais c'est bon, on en parlera
pas. Alors, peut-être qu'on va y arriver plus tard.
Après, ce qui différencie aussi Suicide Club des films précédents, c'est que dans ces films précédents, Sonotion parlait plutôt de lui-même. Genre, il regardait plutôt son nombril en mode autobiographique. Et dans Suicide Club, c'est la première fois où il parle d'un fait de société du Japon, en traitant vraiment un sujet qui est le suicide collectif. Et donc c'est la première fois qu'il comme s'il s'ouvrait au monde et qu'il voulait délivrer un message un petit peu plus large que se regarder lui-même.
D'ailleurs, juste pour revenir à quelque chose, Bastien Merson, que tout le monde connaît ici, m'avait raconté lors d'un entretien qu'il avait eu avec Sonotion, lui expliquait que sous ses clubs, en gros, il voulait développer le film dans tous les pays, c'est-à-dire qu'il voulait trouver des cinéastes d'autres pays qui puissent faire chacun leur Suicide Club et une parler des problèmes, oui, une franchise internationale, on va dire, et que chacun parle justement du problème des suicides des jeunes dans leur pays et voilà, trouve une espèce de correspondance et tout ça. Parce que pour lui, c'est quelque chose de très important. Et voilà.
Ça aurait été intéressant, ça.
Oui, oui, mais malheureusement, personne ne suit.
Aussi, le Suicide Club, ça marque aussi sa première collaboration ou adaptation de manga, car c'est sa première collaboration avec Furuya, qui lui a écrit le manga, je crois, Suicide Club ou un truc comme ça, et qui après a écrit Noriko, justement, comme ça, et qui joue aussi dans Noriko, justement, Furuya, le mangaka, qui lui aussi est un mangaka au Japon très controversé, ou du moins assez extrême dans ce qu'il fait dans le manga.
C'est bien.
Pardon, Marc, tu parlais de la première partie de sa filmographie, et c'est vrai qu'avec Suicide Club, avec cette fameuse séquence d'ouverture qui est extraordinaire, qui est très belle en soi, elle est en même temps, elle annonce aussi ce qu'il adviendra de ses prochains films, à savoir que il coupe, mais même pas au sens littéral du terme, mais il coupe de manière très clinique dans le plan lui-même. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de très simple, un quotidien, voilà, sur un quai de gare, et puis d'un seul coup, soudain, il y a une coupure, et cette coupure finit par quelque chose de très mortuaire. Et c'est ça, en fait, ce que j'ai pu, moi, voir dans les films de Sonotion, à partir de Suicide Club, c'est toujours ça, c'est qu'à aucun moment, il nous caresse dans le sens du poil. C'est qu'il peut arriver, vraiment. Et ça peut partir d'un truc très con, très simple. On est là, on est en train de boire un café, et d'un seul coup, suicide collectif. Et c'est ça qui... Mais on se comprend dans des larmes, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait qu'il nous a pas... Enfin, il nous a pas préparé à... Et c'est ça que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il nous prépare à rien. Et c'est donc il faut toujours être aux aguets, quoi, et sur le quai, comme on dit. Et c'est ça, moi, qui m'a... C'est comme ça que je vois un peu cette séquence d'ouverture, hein, parce que ça annonce vraiment ce qui fera. Parce que c'est vrai, quand on voit ces tout premiers films, par exemple comme Love Song, c'est autre chose, c'est totalement différent, c'est pas aussi clinique. Là, c'est vraiment... C'est génial.
Il y a aussi le fait que ce club, effectivement, est un peu séminal, on va dire, dans l'œuvre de Sonotion. C'est quelque chose que tu as dit, Kefren, c'est qu'il s'adresse aussi à la jeunesse. Et en fait, c'est quelque chose qu'il ne va pas arrêter de faire, de s'adresser à la jeunesse du Japon. Alors là, il est beaucoup plus proche, peut-être, encore de cette jeunesse, parce qu'il est assez jeune, avec ses films dont on va reparler, qu'il a fait en 2015, ou même avant, enfin depuis Imizu, par exemple. Ce sont des films dans lesquels il parle directement à la jeunesse japonaise. Il leur dit de se remuer, il leur dit de changer, il leur adresse des messages. Et c'est vrai qu'on trouve ça dès cette ouverture au monde, comme tu le disais, Marc, qui est sous le
aussi, dans une longue interview que Sonotion a donnée à un média japonais, mais qui n'a jamais été traduit pour rien, et qu'on peut trouver sur YouTube, là, ça dure 50 minutes, un truc comme ça, mais c'est qu'en japonais. Justement, Sonotion explique que...
tu comprends le japonais?
Non, mais j'ai des amis qui m'ont expliqué, en fait. Et en fait, il explique que déjà son cinéma est en réaction au cinéma qui est acclamé au Japon, c'est le cinéma de Ozu. que donc justement tout ce qu'il fait c'est...
Ça il l'a dit dans une interview sur Istasia aussi, c'est toutes les interviews.
Il les traduit.
Il déteste.
Non, pas du tout, je vais revenir après.
Et que justement son cinéma est en réaction au cinéma de Zou comme ça, et que aussi... justement pour l'idée de la jeunesse, qui fait ses films sur la jeunesse, et que si par exemple les vieilles générations de japonais aimaient ses films, il les considérait comme ratés. Il disait que si des gens plus âgés apprécient ses films, il dirait que ses films sont ratés en fait.
Tu vois, quand tu vois Voyage à Tokyo de Ozu, à un moment tu te dis c'est pas possible, le père il va se lever, il va en mettre une à ses enfants. Et ben je crois que si on fait un remake, le père il va les massacrer ses enfants.
C'est
un
couteau, peu, hein.
Au couteau. Hein.
C'est intéressant, mais justement sur cette relation, alors à Ozu en fait il trouvait que c'était le cinéma japonais dominant de quand il a commencé à faire du cinéma au début des années 2000. Et ce qu'il a toujours voulu faire, c'est effectivement aller à contre-courant de ce qu'il fait, de ce qui peut marcher, de ce qu'on a l'habitude de voir les gens. Et donc comme il dit que le cinéma japonais a une espèce de tranquillité qui est venue du classicisme de Ozu, lui il a voulu faire des films énervés. Si le cinéma japonais avait cette espèce de folie et qu'elle devenait normative, il ferait exactement l'inverse. C'est à peu près ce qu'il a fait avec...
Même en réaction contre la nouvelle vague des années 60, avec Oshima, avec tout cela, il était...
C'est, je pense que alors c'est peut-être
ouais, sans doute
oui c'est ça, il n'y a pas eu de suite. Et même Oshima, alors j'en ai pas entendu parler, ou Imamura, c'est quelque chose qui a infusé dans le V-cinéma, il me semble. Par exemple Takashi Miike a travaillé avec Imamura par exemple. Je pense que Ozu est plus proche d'un Oshima, je pense que Sonotion est plus proche d'un Oshima que d'un Ozu effectivement, mais c'est un cinéma qui finalement qui n'a pas survécu aux années 70, donc oui. Le fait, lui, il arrive dans les années 80, le cinéma japonais était complètement différent, donc il s'est, un peu comme la nouvelle vague en France, il s'est opposé à ce qui se faisait au Japon au moment où lui a commencé à faire des films.
Et il y a ça. En fait aussi, sur le film en lui-même, comme pour revenir au film en lui-même, depuis le début, en fait, on parle de la scène d'ouverture, uniquement, mais c'est aussi un film qui, en fait, dans sa structure et dans la façon dont il parle de la Giroir, est super intéressant, et aussi un peu représente ce que son notion va plus tard faire des genres, vraiment les mettre à sa sauce. C'est un film qui, dans plusieurs scènes, évoque vraiment la J-horreur pure et dure. Ouais. Par exemple, la scène du fantôme dans l'hôpital, où c'est vraiment de la J-horreur vraiment très très simple. Et juste après, tu auras une scène dans un bowling avec des rockers qui vont sortir de housse, qui vont peut-être faire un morceau en plan fixe, super bizarre. Et pour moi aussi, rien que la fin du film, qui est très, très étrange aussi, qui n'est pas du tout conclusive et qui est assez... pour moi, c'est ça aussi, Suicide Club. C'est un film de J-horreur qui est perverti et qui est totalement changé. Parce que vers ses notions, et donc oui, il va aussi à contresens de ce... Pas à contresens, mais il adapte à lui, il adapte à sa sauce, et vraiment ce genre, qui à l'époque là était très populaire de la J-horreur. C'est aussi ça qui est intéressant dans ce film.
Justement, on peut en parler, on est dans les années 2000, c'est vrai qu'on va passer justement à XT. Est-ce que ce notion a fait du coup après des vrais films de J-horreur, a utilisé les codes du genre? Est-ce que vous pensez que dans ces films, il a pu... comment est-ce qu'il les a utilisés?
C'était plus un vaisseau pour lui, toucher un plus large public. Qu'est-ce qui marchait? Je pense que c'est peut-être aussi un genre dans lequel il se sentait bien, parce qu'il comprenait bien les codes. Mais c'était surtout un moyen de toucher le public qu'il voulait, le public jeune. Le public jeune allait voir Ring, allait voir tous les films de Kenji Shimizu et tout ça. Donc, et puis je pense qu'il pensait peut-être plus facilement dynamiter ce genre-là de l'intérieur, et puis c'est un genre qui accepte aussi certaines souffrances graphiques dans lesquelles voilà, il peut s'exprimer pleinement. Donc voilà, c'était pour lui une opportunité qui lui est tombée tout de suite. Quoi. Donc, voilà, c'était...
Et puis comme il aime bien surprendre et vraiment prendre à contre-pied le spectateur, en posant une base qu'on pense simple, la J-horreur, voilà, c'est un canevas classique, tout le monde est à l'aise, on connaît. On y va confiant, et puis c'est son notion, là on s'en prend plein la gueule parce qu'il va pas faire un truc simple, quoi.
Quels sont les films importants d'après vous de cette première vraie période, en tout cas de cinéaste professionnel de son notion?
Qui s'étend de...
Oui, c'est votre camp.
Alors, ça va de 2001, Suicide Club, à 2007, XT, et ensuite on parlera de la
trilogie
de Le Testament de Noriko.
Oui, Noriko aussi.
Qui est,
alors, comme on était sur Suicide Club, on peut parler de Noriko.
Et Hazard. Le Testament de Noriko, donc Noriko's Dinner Table, qui est une sorte de suite de pendant à Suicide Club, puisque ça reprend une
partie. Il était présenté en préquel dans le coffret.
C'était présenté en préquel parce que effectivement il y a des y a des personnages de Suicide Club qui sont présents dans le film. Et,
en gros, ça se passe avant et après, en fait.
Oui, oui, parce que c'est sa notion, on va pas faire simple.
Pour moi, le Testament de Noriko, dans cette période-là, c'est son meilleur film. Il dure assez longtemps, il doit durer 2h30. Ouais. Et ça parle justement de l'épopée d'une jeune japonaise qui décide de quitter sa province natale pour aller à Tokyo et qui traîne avec ce cercle de suicide et qui se bat en même temps avec sa famille parce qu'elle veut couper les ponts avec elle, etc. Donc ça parle de vraiment l'errance de toute une jeunesse par rapport à ce fait-là. Et c'est assez important puisque, comme dans Suicide Club, ça parle beaucoup d'un thème cher à sa notion qui est l'explosion de la cellule familiale qui est présent dans quasiment tous ses films depuis les années 2000 où justement, enfin, comme il est un petit peu anarchiste, ce notion, maintenant c'est un petit peu changé maintenant qu'il a une vie de famille un petit peu plus rangée. Mais dans beaucoup de ces films, justement, ça parle de l'impossibilité de fonder une famille et d'avoir des parents. Et justement, il parle de cette libération de la jeunesse, justement, qui coupe les ponts, comme lui voulait couper les ponts avec les cinéastes précédents. Dans la famille, les adolescents sont vraiment livrés à eux-mêmes et ils coupent totalement les ponts avec leur famille, quitte à faire l'inverse de ce qu'ils sont censés faire. Et ça, c'est vraiment enfin, une preuve de son anarchisme latent, puisque c'est aussi autobiographique. Quand il avait fait Love Exposure, en fait, c'était aussi influencé par une expérience qu'il avait eue dans sa vie, puisqu'à la fin de son adolescence, il avait quitté son foyer familial et il s'était retrouvé dans une secte pendant plusieurs mois. Et ce qui a donné un petit peu le scénario de départ de Love Exposure. Et donc le Testament de Noriko, vraiment très très bon film, très abouti. C'est justement là où Sonosio commence à faire des films fleuves qui durent assez longtemps. Et toujours avec une... Il n'avait pas encore mis la grosse musique classique dans des scènes choc. Mais là c'était plutôt une musique beaucoup plus douce, faite avec des xylophones, etc.
Très belle
bande son. Et vraiment là c'était... Ouais, dans les années 2000, je pense que, enfin, après Love Exposure, c'est vraiment un grand sommet de Sono.
Alors, c'est étonnant parce que j'ai entendu trois films, Noriko's Dinner Table, Strange Circus et Hazard, c'est trois films qu'il a réalisés en 2005. Hein. Donc, voilà aussi une année particulièrement importante. Kefren, hein.
Justement, moi, c'était pour parler de Hazard.
Très bien, la transition est toute trouvée.
Qu'on adore avec Elias, et je suppose qu'on doit être les seuls.
Non,
parce que justement, Hazard est connu pour pas être trop aimé en général des gens. Bref, donc Hazard, c'est Sonotion qui va à New York et qui justement fait un film un peu à la Cassavetes, justement, à New York où la caméra est libre comme ça et elle suit un japonais qui vient. Alors lui-même ne sait pas pourquoi il vient. Il vient pour être libéré justement du Japon car il a des rêves comme ça, enfin des flashbacks de sa vie japonaise et une voix d'enfant comme ça qui lui répète que le Japon c'est un pays tranquille et que le Japon ça endort les gens et qu'il se passe rien au Japon en fait. Et justement il va à New York pour connaître l'aventure, enfin en quelque sorte, et il n'est pas déçu vu qu'il traîne avec un groupe de mafieux japonais dont le leader est assez charismatique, il est joué par le poète canadien, japonais-canadien Jay West, qui lui aussi est un espèce d'alter ego de Sonotion dans le film, car il déclame comme ça de la poésie et de la philosophie à tout va, en braquant les gens comme ça, des choses comme ça. Et le film est en fait très libre, en fait, comment dire. C'est un truc qu'on n'avait même jamais vu aux États-Unis ou des choses comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de plans séquences dans la rue, comme ça, où on les voit marcher et tout d'un coup, par exemple, ils décident d'aller braquer un magasin et ça continue et ils rentrent dans le magasin, et ils braquent et ils ressortent en voiture comme ça et le plan continue. Et c'est un film comme ça qui est bercé par une espèce d'anarchie, de folie, de tout est possible, des choses comme ça. Et qui une sorte comme un manifeste de Sonotion dans le cinéma japonais, car après le héros retourne au Japon et justement devient une espèce de punk au Japon, comme ça.
Ça devient un homme nouveau.
Oui, un
homme nouveau. Mais ce qui est étonnant avec ce film-là, c'est que Sonotion est aller à New York pour tourner d'abord un film. Et finalement, ses producteurs l'ont lâché. Il devait tourner un film sur un fait divers à propos d'un meurtre homosexuel SM. Et finalement, les producteurs l'ont lâché. Il s'est retrouvé tout seul et il a improvisé un film qui était justement inspiré par la nouvelle vague américaine, justement, genre Dennis Hopper, tout ça. Et c'est pour ça que dans le film, il y a un grain particulier. T'as l'impression que c'est filmé à l'arrache, assez grossièrement. Et en fait, c'était...
C'est filmé en guérilla.
Ouais, en guérilla shooting. Et en fait, c'était un hommage, justement, au cinéma de Dennis Hopper et à la nouvelle vague américaine, totalement.
Elias ?
Bah moi, Hazard, je vais avouer, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Je ne l'ai pas vu depuis que j'ai fait ma rétro, quand j'ai vu à l'étranger pour nous au PNL. Mais c'est un film qu'en fait, j'ai gardé un souvenir extrêmement bon et très positif de film. C'est-à-dire que je pense que c'est le premier Solution où je me suis dit waouh, c'est vraiment un réal que j'adore et que j'ai envie de continuer, que j'ai envie de suivre, parce que j'avais bien aimé les deux d'avant, on en a parlé, mais c'était pas non plus à ce point-là. Et Hazard, vraiment, c'est le premier film où j'ai vraiment ressenti quelque chose qui me dit c'est ce réal est unique, ce réal, il a quelque chose de vraiment spécial et il pourrait faire n'importe quoi, je pourrais le suivre jusqu'au bout de. Pour moi, Hazard, c'est un film. J'avoue que j'ai pas un souvenir très précis, j'ai juste ce souvenir d'une sensation très positive et presque d'être bercé par ce film. Je trouve que c'est un film, Kéfren disait le mot bercé tout à l'heure, et je trouve que ce mot marche très bien parce que c'est un film où au final on se sent vraiment. C'est pas un film good movie, t'as des scènes qui sont presque dans ce sens-là. Des scènes, j'étais heureux de voir le héros, j'étais heureux de voir ce qui se passe, j'étais heureux de voir qu'il se plaisait en New York. Et c'est assez rare chez Sono des films comme ça où tu te retrouves presque bercé par ce rythme et. Pour moi, c'est un film qui est très à part dans cette filmographie, et c'est ça qui le rend à la fois intéressant et pour moi un de ses meilleurs.
Samir, tu partages pas forcément cet avis sur Hazard.
En fait, c'est un peu complexe. Je ne peux pas dire que je n'aime pas un film de Sonotion. C'est tellement particulier que j'ai du mal à liker, comme on dit maintenant. Donc, je vous écoute tous les deux, et Kéfren et Yass, et il y a des moments comme ça, il y a des expérimentations chez Sonotion, j'arrive pas trop à rentrer dedans, je les trouve peut-être un peu trop nombrilistes parfois, et j'ai cette impression qu'il n'a pas forcément besoin de moi pour s'éclater là-dessus, alors que j'en retrouve certains dans Strange Circus ou dans The Suicide Club. Moi je suis très classique, mais Suicide Club, voilà, de cette première partie, c'est vraiment le film qui m'a le plus impressionné. Je vois exactement là où tu vas en venir, mais ça m'a pas forcément... Alors que, on en parlera beaucoup plus tard, il y a des certains films, je sais, qui n'ont pas forcément été appréciés, mais par exemple, chez Tokyo Tribe, c'est... Bizarrement, d'emblée, je suis rentré dedans et...
Je suis très content,
j'avais lu quelque part et tout, bref. Mais voilà.
J'aimerais qu'on reste un peu sur cette période, notamment je pense Strange Circus, qui doit être aussi assez important.
Je propose que Hazard, en fait, c'est le premier film où... C'est le premier film de Sonotion où les gens déclament de la poésie comme ça. Il y a une scène où il déclame tout un poème de
Walt Whitman.
Oui, Walt Whitman, voilà, comme ça.
Preuve encore d'une certaine anarchie de Sonotion. Walt Whitman, c'est grand poète anarchiste du 19e. Et justement, enfin, fondateur de un petit peu de la littérature américaine, donc ce retour au classique.
Elias, moi, je veux juste dire un mot sur Strange Circus, quand même. Parce que c'est mon film de Sonotion préféré. Voilà. Et je pense, d'ailleurs, j'ai même dit à Sonotion, que c'est en fait le film qui m'a donné envie d'écrire sur le cinéma. Et c'est en fait un film qui m'a ouvert à plein de choses. C'est un film qui, sans lui, je pense que je ne serais pas ici, sans Strange Circus. Mais aussi, d'ailleurs, je pense que le film lui-même, en fait, Strange Circus, c'est un film le film de Sonotion qui s'inspire le plus ouvertement de l'Eroguro, qui est un film de manga japonais, de littérature japonaise, avec Edogawa Rampo et Shigeru Maruo, etc. Donc qui s'inspire de l'érotisme et du grotesque, et qui mélange les deux de façon assez perverse, enfin très perverse. Et c'est aussi, je pense, le meilleur film japonais adapté du genre, pour moi. S'il y en a un meilleur, dites-le moi, parce que j'en cherche un depuis très longtemps, j'ai jamais réussi à en trouver un. Et Strange Circus, pour moi, je criais devant mon écran. Pour moi, c'est un des films les plus intenses qui a jamais été réalisé. C'est un des films les plus choquants qui a jamais été réalisé, c'est un film le plus surprenant. Et je pense que c'est vraiment le film ou son notion. Tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est tout est poussé à l'extrême. Il a mis tous les voyants à l'extrême, il n'y a pas un moment où le film s'arrête, il y a un moment où le film est en pause. Et c'est pour moi le film, son notion, qui m'a le plus retourné, et c'est celui qui m'a le plus marqué de toute ma
vide son notion film. Et cinéphile.
Bon, bah, très bien, bah, je pense qu'on va arriver à une période où il y a beaucoup de films qui ont marqué aussi les cinéphiles, à commencer par donc Love Exposure, son première partie de sa trilogie de la haine dont nous allons parler maintenant.